qui part cet été ou les chiffres des vacances. C'était le titre d'un article de juillet 2016 que j'ai trouvé sur le site d'information Europe 1 et qui parle voilà un peu des choix des vacanciers l'été. Alors on est entré là cette semaine dans les vacances d'été et sans surprise, dit l'article, la plage est la priorité des vacanciers estivaux. Le bord de mer reste l'espace privilégié des Français pour leurs vacances d'été. Ils y passent la moitié de leur nuit. Écrivait en 2008 l'INSEE qui avait fait un sondage avec une carte pour montrer comment sont répartis les gens qui partent en vacances. Donc vous voyez là en sombre, c'est sur les côtes. Hein, voilà. Et puis quand même un petit peu en montagne. Alors il y a 45% des vacanciers qui choisissent les côtes, le littoral. Et puis 17% des vacanciers partent à la montagne. Et le décalage quand même entre la mer et la montagne. Je reprends ce matin la suite de notre série de prédications sur l'évangile selon Marc, avec un récit ce matin en deux temps. La première partie qui se passe à la plage et la deuxième à la montagne. Alors je vous invite à ouvrir, alors je ne sais pas si c'était les juilletistes, les vacanciers du mois de juillet dans notre récit, mais on va reprendre donc notre lecture de l'évangile selon Marc au chapitre 3. Marc 3, et nous allons lire les versets 7 à 19. Évangile selon Marc, chapitre 3, versets 7 à 19. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande foule le suivit. Venu de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de Transjordanie et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande foule, donc, apprenant tout ce qu'il avait fait, vint à lui. Il dit à ses disciples de tenir à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait avec beaucoup de sévérité de ne pas le faire connaître. Jésus monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec l'autorité de chasser les démons. Il établit les 12, Simon, qu'il surnomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, auquel il donna le surnom de Boanerges, ce qui signifie « fils du tonnerre », André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé, ou le Cananite, selon les traductions, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Deux lieux d'action dans notre récit ce matin, la mer et la montagne. Et trois manières d'être en relation avec Jésus. L'attitude des foules, l'attitude des gens tourmentés par des esprits impurs, et puis la situation des 12 disciples ou apôtres que Jésus appelle apôtres. Et nous allons regarder comment dans ces deux lieux, à la plage et sur la montagne, les gens se comportent et comment Jésus se comporte avec eux. Premier point donc, Jésus va à la plage. Quelques mots par rapport au contexte. Il s'agit ici de la mer ou du lac de Galilée. La Galilée, c'est là où Jésus a commencé son ministère public. Et nous y sommes dans ce début de l'évangile selon Marc, depuis le premier chapitre, je reviens un tout petit peu en arrière, Marc chapitre 1 verset 14. Après que Jean-Baptiste eut été arrêté, Jésus alla en Galilée, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est arrivé, le royaume de Dieu est là, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et en passant le long de la mer de Galilée, du lac de Galilée, il voit Simon et André et puis Jacques et Jean qui sont pêcheurs de poissons et il les appelle à le suivre et ces hommes quittent tout pour le suivre. Et donc Jésus revient dans notre texte de ce matin, là où il a appelé ses premiers disciples, et il se retire avec eux vers la mer, peut-être pour prendre un peu de repos ou pour passer du bon temps à la plage avec ses disciples. Jésus va à la plage. Mais une grande foule le suit à la plage. Je ne sais pas si c'est les juilletistes, mais une grande foule le suit. Et les indices que Marc nous donne concernant la provenance de ces gens venus en nombre nous indiquent une chose, c'est que la renommée, la réputation de Jésus grandit. Vous voyez, de toutes ces provinces, d'où viennent les gens qui ont entendu parler de Jésus. Et déjà, un petit peu en arrière, toujours au chapitre 1 et au verset 28, nous avions lu que la renommée de Jésus se répandit juste après l'épisode où Jésus chasse un esprit impur dans leur synagogue. La renommée de Jésus se répand, au point que le soir même, alors qu'il est avec ses disciples à la maison de Pierre, eh bien, tout le village est rassemblé devant la porte. Et Jésus guérit les malades et chasse les démons. On va voir ça aussi dans notre texte ce matin. Et puis, un lépreux guéri se met à faire de la pub pour Jésus comme guérisseur contre les recommandations de Jésus. C'est ce que Jésus dit au chapitre 1 et au verset 46. Une fois parti, donc le lépreux guéri se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter. C'est le buzz de l'époque. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de partout. Donc là, c'est plus seulement village de Capernaum, mais c'est aussi des environs. On vient pour voir Jésus. Et puis au chapitre 2 et au verset 13, Jésus va encore à la plage et Marc nous dit que toute la foule venait à lui et Jésus les enseignait. Regardons maintenant donc de plus près l'attitude de ces foules, de ces gens qui viennent voir Jésus et comment Jésus réagit. D'abord, pourquoi ces gens font-ils tous ces kilomètres ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu parler de tout ce que Jésus faisait, nous dit Marc au chapitre 3 et au verset 8, et en particulier de ses guérisons. Or, beaucoup parmi ces gens souffrent de divers maux, de diverses maladies. Et on leur a fait la pub de ce Jésus. Ils viennent trouver celui qui, pensent-ils, pourra combler leurs attentes en les soulageant de leurs souffrances. Ces gens viennent trouver Jésus par rapport à ce qu'il peut faire pour eux, par rapport à leurs besoins. On n'a pas l'impression qu'ils cherchent Jésus pour lui-même, mais plutôt pour le bien-être qu'il peut leur procurer. N'est-ce pas compréhensible? Quand on est malade, on a envie d'aller mieux. Et on est parfois prêt à utiliser les grands moyens pour obtenir un soulagement. Je me souviens, il y a quelques années, dans le service où je travaillais, d'une collègue qui était allée consulter un guérisseur en Amérique du Sud pour soulager un problème de vue qui durait depuis des années et que les médecins occidentaux n'avaient, semble-t-il, pas réussi à guérir. Elle a dépensé beaucoup d'argent pour le voyage et puis pour la consultation et elle me parlait avec passion de la renommée internationale de ce guérisseur et de ses pouvoirs. Le problème, c'est que au-delà de la réputation de ce gourou, ça c'est moi qui l'appelle comme ça, son œil n'était pas guéri. Sans parler de l'influence spirituelle mauvaise de cet homme et de sa pratique occulte. Je parle de l'influence spirituelle sur ma collègue. Ce que les gens sont prêts à faire pour ne plus souffrir. Ce que nous, peut-être, sommes prêts à faire pour ne plus souffrir. Écoutez ce que les gens font ici. Tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur Jésus pour le toucher. Littéralement, tombaient sur lui. Toucher Jésus comme on prendrait un médicament à effet magique. Comment Jésus réagit-il à la plage? Eh bien, Jésus met une distance entre lui et la foule. Verset 9. Il dit à ses disciples de tenir à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé ou oppressé par la foule. Jésus veut un petit bateau en permanence. Dans le texte original, c'est l'idée d'une disposition permanente de ce petit bateau. Peut-être un des bateaux d'ailleurs qui servait à Pierre ou à Jacques ou à Jean lorsqu'ils travaillaient comme pêcheurs de poissons et qui est recyclé là pour Jésus. Et l'idée que Jésus ait besoin d'une barque en permanence suggère l'idée que l'attitude de la foule est plutôt habituelle. Que ce n'est pas juste une fois comme ça, mais que c'est l'habitude de ces foules de venir en masse voir et toucher Jésus. Et Marc nous dit pourquoi Jésus fait cela. Pour que les gens ne le pressent pas, ne l'oppressent pas. Jésus, tout plein de compassion qu'il est, n'aime pas qu'on lui saute dessus. C'est aussi, je pense, parce que son objectif premier, ce n'est pas de guérir les foules, mais de les enseigner. Alors, le texte ne le dit pas, je le reconnais. Mais nous avions lu au chapitre 1er et au verset 38 qui résumait un petit peu le ministère de Jésus en Galilée. Ceci, c'est Jésus qui parle, il dit à ses disciples « Allons dans les villages voisins afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Pas d'abord pour guérir les gens de toutes leurs maladies. Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans leur synagogue et chassant les démons. Alors dans notre texte, Jésus ne prêche pas, mais quelques versets plus loin, chapitre 4, verset 1, nous retrouvons Jésus qui enseigne la foule depuis la barque. Nous verrons ce texte dans quelques dimanches. Être en contact avec Jésus, ce n'est pas une expérience fusionnelle. Être collé à lui, sauter sur lui pour le voir ou pour le toucher. Cela passe par la parole et donc par une certaine distance. Remarquez que dans notre passage, Jésus refuse qu'on le colle, même pour des raisons qui nous paraissent légitimes. Souffrance, maladie, etc. Alors je reviendrai sur ce point en conclusion pour tirer quelques conséquences pratiques de ce premier point. Deuxième point, deuxième type de relation avec Jésus dans notre texte, après les foules qui sautent sur Jésus, les esprits impurs, verset 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait avec beaucoup de sévérité de ne pas le faire connaître. On retrouve ici le même phénomène et les mêmes éléments que nous avions vus lorsque Jésus a chassé l'esprit impur dans leur synagogue, au chapitre 1. par exemple, c'est l'esprit impur qui prend l'initiative du contact avec Jésus. Jésus n'est pas parti à la chasse aux démons, mais là où il passe, les démons se dévoilent. Ils ne peuvent plus rester dans l'ombre. Marc dit, les esprits impurs, quand ils le voyaient, tombaient. Ils se dévoilent, ils se démasquent, ils ne peuvent rester cachés. Autre élément, les démons connaissent certaines choses sur Jésus, peut-être même mieux que les foules d'ailleurs. Tu es le Fils de Dieu. Là où les foules cherchent d'abord, apparemment, un guérisseur. Tu es le Fils de Dieu. Qui nous rappelle le « Je sais qui tu es, toi le Saint de Dieu ». Cet esprit impur dans la synagogue au chapitre 1. Le Saint de Dieu, le Fils de Dieu, des expressions qui renvoient à la divinité de Jésus, dont Marc nous a parlé dès le premier verset de l'Évangile, à la manière d'un épisode de la série télé Columbo. Début de l'Évangile qui concerne Jésus le Christ, le Fils de Dieu, Marc chapitre 1 verset 1, voilà, tout est dit. L'identité de Jésus nous est connue, à nous lecteurs, il nous reste à comprendre ce que cela veut dire, et à y croire, ou non. Et c'est là toute la suite du récit de l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire « Fils de Dieu » dans notre passage de ce matin ? Cela veut dire que lorsque Jésus passe, les démons se prosternent. Littéralement, ils tombent devant lui, nous dit Marc. Face à sa puissance, face à son autorité, face à son identité divine. Remarquez bien l'expression. Les démons tombent devant Jésus. Alors que les malades, les foules, essayaient de toucher, de tomber sur Jésus. Il y a une différence ici. Les foules cherchaient à se jeter sur Jésus. Il y avait donc un contact physique avec Jésus. Et les malades, et Jésus, pardon, acceptaient ce contact jusqu'à un certain point, après monter dans la barque. Mais pour les gens qui sont influencés par des esprits mauvais, pas des malades, mais des gens qui ont partie liée avec l'occultisme, Jésus n'autorise aucun contact physique. Aucun. Les gens tombent devant lui, pas sur lui. On trouve aussi dans notre texte, ce qu'on avait déjà trouvé au chapitre 1, l'absence de dialogue entre Jésus et les démons. Lorsque les démons veulent faire de la pub à Jésus, en révélant son identité, Jésus les fait taire immédiatement. Il les censure sévèrement, nous dit Marc. Deux sortes d'attitudes vis-à-vis de Jésus à la plage. Les foules qui cherchent le contact physique avec Jésus pour une guérison, et Jésus qui met une distance. Et puis, des gens tourmentés par des esprits impurs, des esprits qui se dévoilent, qui confessent l'identité de Jésus, mais face à son autorité, les démons s'aplatissent, leur place, c'est à plat ventre devant Jésus. C'est un peu troublant quand même. Enfin, j'espère que ça nous trouble un peu. L'attitude et l'autorité de Jésus ici. Parce que avec Jésus, à la plage, on n'entre pas facilement en contact. Il n'est pas aussi accessible qu'on pourrait l'imaginer. Et dans le texte, c'est lui qui met une distance avec la foule et puis surtout avec les démons. Ce qui nous amène à la question, comment rencontrer Jésus alors ? Est-ce possible ? Et dans quelles conditions ? Et pour répondre à ces questions, il nous faut changer de décor et passer au deuxième temps de cette prédication. Jésus à la montagne. La montagne, c'est souvent dans la Bible un symbole de rencontre avec Dieu. Par exemple, c'est sur la montagne que Dieu appelle Moïse dans un buisson qui brûle. C'est sur une montagne que Dieu donne sa loi au peuple après la sortie d'Égypte. C'est sur une montagne, sa montagne sainte, que Jésus a établi le temple à Jérusalem. On pourrait comme ça multiplier les exemples. Dans le texte de Luc, chapitre 6, qui parle un peu du même épisode que nous lisons ce matin dans Marc, Luc nous dit que Jésus a passé toute la nuit à prier sur la montagne avant de choisir les 12. Montagne, prière, Jésus est en dialogue avec son Père Céleste pour ce moment important dans son ministère et dans la vie de ceux qu'il va choisir. Sur la montagne, pas à la plage. Il est peut-être plus facile de suivre la foule et de faire comme tout le monde en bord de mer, un peu comme les vacanciers l'été qui se mettent en rang les uns à côté des autres pour bronzer. Plus facile, ça, que de grimper sur la montagne pour répondre à un appel, qui n'est pas l'appel de la foule, mais l'appel d'un homme particulier. Et c'est là le point important. Sur la montagne, celui qui prend l'initiative du contact, c'est Jésus. Les foules cherchent Jésus à la plage et lui courent après. Les démons, lorsque Jésus passe, prennent l'initiative du contact et Jésus les censure. Sur la montagne, ça ne se passe pas comme ça. Sur la montagne, c'est Jésus qui appelle et c'est Jésus qui fixe les conditions de la relation. Et Marc le martèle dans notre passage, au cas où nous soyons un petit peu durs d'oreille. Écoutez, Jésus appela, donc c'est Jésus qui appelle. Deuxièmement, Jésus appelle qui ? Jésus appelle ce qu'il veut, lui. Et ensuite, ils viennent à lui. Donc, ils répondent oui à l'appel de Jésus. Troisièmement, Marc dit lui-même. Au cas où on n'est pas bien entendu, en résumé, Jésus choisit lui-même les gens que lui, il veut. Les disciples, contrairement aux foules et aux démons, ne viennent pas trouver Jésus de leur propre initiative. Ils sont appelés par lui. Comme si, à la plage, on cherche, quelque part, de soi-même, à changer de vie. À la montagne, on y est invité par Jésus lui-même. Et c'est Jésus qui fixe les conditions de cette vie nouvelle. Et dans cette vie nouvelle, il y a un avant et un après. Et ça se voit dans l'appel des disciples. Par exemple, Simon, Jacques, Jean, André, ce sont des marins. Qu'est-ce qu'ils fichent sur la montagne ? La montagne, probablement, ils ne maîtrisent pas. Ils doivent donc faire confiance à Jésus pour la suite du parcours en montagne. En plus, Jésus semble les connaître mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Et pour cette étape importante de leur vie, Jésus leur attribue des surnoms. Vous avez vu ça ? Simon est surnommé Pierre. Peut-être parce que la pierre est solide et fragile à la fois. Peut-être est-ce une caractéristique de l'entêtement de Simon, quand on connaît le caractère de Pierre et la suite du récit. Jacques et Jean sont surnommés Fils du tonnerre. Pourquoi ? Marc ne nous le dit pas. Je me suis dit, peut-être que c'est par rapport à l'épisode où ils ont voulu faire descendre la foudre sur un village de Samaritains parce qu'on leur refusait le passage. Une attitude pleine de bonté et de patience. Dans l'équipe, il y a aussi un collabo, Matthieu, collecteur d'impôts, donc il travaille plutôt pour l'occupant romain. Et en plus, un zélé. Peut-être vous avez, c'est marqué dans votre traduction, Simon le Cananite. Et dans d'autres traductions, c'est le zélé. Parfois même le zélote. Certains pensent qu'il faisait partie d'un de ces groupes qui a eu un rôle important dans la guerre juive entre 66 et 70, dans la révolte des juifs contre les romains. Alors on n'est quand même pas trop sûr que ce soit à proprement parler un zélote. Mais en tout cas quelqu'un de zélé. Voilà. Et si c'est un zélé à tendance zélote, parce que les zélotes ils ont pris les armes hein, contre les romains, donc c'est pas détendre. Hein. Je trouve intéressant d'avoir dans la même équipe un qui travaille pour l'occupant romain et l'autre qui fait partie d'un ou a des affinités avec un mouvement qui va se révolter contre les Romains. Et puis il y a aussi un futur traître, Judas. Moi aussi je me suis dit ça, je me suis posé la question. Cette équipe-là, belle diversité ou équipe de bras cassés? C'est pourtant le choix de Jésus d'établir ces 12-là apôtres. C'est pas dans tous les manuscrits, donc c'est pas dans toutes les traductions, cette phrase, Jésus les a appelés apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire apôtre? Ça veut dire envoyé, mais pas seulement envoyé. Ce sont des envoyés spéciaux, parce qu'ils sont les représentants personnels du roi Jésus. C'est ambassadeurs au sens fort du terme, que Paul utilise d'ailleurs dans le texte que Patrick nous a lu tout à l'heure, dans 2 Corinthiens chapitre 5. Quand Paul dit « Nous sommes les ambassadeurs », c'est pas nous, hein, c'est nous les apôtres. Alors peut-être par extension, nous aussi nous avons un rôle d'envoyés, mais nous ne sommes pas apôtres. Et nous ne sommes pas comme les 12 dont il est question ici. Alors pourquoi ce choix de Jésus? Remarquez qu'il y a deux types de calendriers spirituels dans notre texte. Il y a le calendrier des foules et des démons, un calendrier qui est à leur initiative. Et puis il y a le calendrier des disciples qui est fixé par Jésus. Et qui consiste en quoi? Être avec lui et aller en mission. Un petit groupe d'hommes par rapport à une grande foule. Un petit groupe d'hommes qui, par la grâce de Dieu, va commencer à changer le monde. Et Marc reprendra ce thème dans le chapitre 4 avec toutes les paraboles du royaume et ces choses qui paraissent insignifiantes dans le monde, mais qui finalement développe petit à petit le royaume de Dieu. Jésus et sa petite équipe de 12, alors il y en a un qui va malheureusement trahir en cours de route et qui sera remplacé par la suite, mais Jésus et cette équipe de 12 qui là commence un travail d'équipe. Et remarquez que la première raison pour laquelle Jésus choisit ces hommes-là, c'est pour qu'ils soient avec lui. C'est pas d'abord pour les envoyer faire des choses ou accomplir une mission. Ça va venir la mission. Mais c'est d'abord pour être en formation avec lui. Non pas pour les avoir avec lui, moi j'ai ça dans ma traduction Colombe, comme si Jésus avait besoin des apôtres. le sujet de la proposition, c'est bien les apôtres. Ce n'est pas Jésus qui aurait besoin de les avoir avec lui. C'est eux qui ont besoin d'être avec lui. Et donc, nous avons dans notre passage ce matin trois manières d'être en relation avec Jésus. Deux à la plage, une à la montagne. La première, c'est celle des foules qui veulent tomber sur Jésus. La deuxième, c'est l'attitude des esprits impurs qui tombent devant Jésus. Et la troisième attitude, qui est pour nous l'exemple à suivre, c'est la situation des disciples qui sont appelés à être avec Jésus. Sur Jésus, collés à Jésus, devant Jésus, à plat ventre devant lui, ou être avec Jésus et en mission avec lui. Parce qu'ils sont envoyés en mission, ces hommes. Quelle mission ? La même exactement que celle de leur maître. Prêcher et chasser les démons. Je l'ai relu tout à l'heure, chapitre 1, verset 39. Jésus s'en alla dans toute la Galilée, prêchant dans leur synagogue et chassant les démons. Prêchant et chassant les démons. Qu'est-ce que Jésus les envoie faire à ces douze-là ? Prêcher et chasser les démons. Pourquoi chasser les démons ? Il ne les envoie pas à la chasse aux démons, mais il les envoie prêcher, et en prêchant, les démons vont se révéler et ils vont faire comme leur maître, ils vont leur dire « Taisez-vous !» Ça veut dire ça, chasser les démons. Faire taire ceux qui veulent mettre des bâtons dans les roues à leur prédication. Alors je vais reprendre pour finir de manière plus pratique ce que nous avons vu avec ces trois manières d'être en relation avec Jésus. D'abord les foules. Nous avons vu que les foules essayent quelque part de s'accaparer Jésus pour qu'il satisfasse leurs besoins ou leurs désirs. Mais Jésus ne se laisse pas presser. Il guérit beaucoup de gens, Marc nous le dit. Mais il met aussi une distance entre ces gens avec tous leurs problèmes et lui-même. Jésus ne se laisse pas modeler à l'image des attentes de la foule. Il y a là un point important que je reprendrai aussi la prochaine fois, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais je le mentionne brièvement. L'exemple de Jésus dans le texte nous montre que nous n'avons pas à coller aux attentes des autres à notre égard. Jésus refuse de se laisser enfermer dans le rôle de guérisseur que les foules fixent pour lui. Et je crois qu'il y a quelque chose à entendre pour nous aujourd'hui et pour le ministère que Jésus nous confie aujourd'hui, qui n'est pas le sien, qui n'est pas celui des douze, et que je reprendrai aussi la prochaine fois. Dans quelle mesure, je formule sous forme de question, dans quelle mesure notre service pour Dieu est-il déterminé par notre entourage ? Et il est parfois difficile de garder la direction de notre appel sans courir à droite ou à gauche en fonction de ce que les autres déterminent comme calendrier pour nous. Et l'attitude de Jésus, je crois, nous rend vigilants ici. Jésus ne se laisse pas envahir par les demandes et les attentes des foules. Il pose aussi des limites. Et nous, dans le calendrier que Dieu nous confie, quelles sont les limites que nous posons ? Maintenant, si nous regardons non pas du côté de l'exemple de Jésus, mais du côté de l'exemple des foules, je me dis, peut-être parfois, souvent, je ne sais pas, Nous sommes tentés de réagir comme la foule. Nous avons plus ou moins entendu que Jésus a fait des bonnes choses, qu'il est un bienfaiteur, un faiseur de miracles. Et quand nous avons un problème, médical ou autre, nous pourrions, nous aussi, avoir tendance à lui sauter dessus. Jésus, guéris-moi. Jésus, trouve-moi un travail. Jésus, augmente mon salaire. Jésus, trouve-moi une femme. Jésus, protège mon voyage. Jésus, fais ceci. Jésus, fais cela. Jésus, Jésus, au nom de Jésus, je t'en prie. Des fois, nous prions Jésus au nom de Jésus, c'est comme si la formule allait ajouter du poids et donc peut-être un peu de pression sur Jésus. Serait-il possible que dans notre recherche spirituelle, dans notre piété, nous cherchions Jésus non pas pour lui-même ou pour être avec lui, mais pour nous-mêmes, pour notre santé physique ou psychologique, pour notre bien-être, voire pour notre confort. Et que, entendant nos prières et voyant notre mentalité, notre cœur, Jésus prenne une barque et s'éloigne de nous. Parce que Jésus ne se laisse pas attraper, oppresser, même par nos demandes légitimes. Il a son calendrier à lui, qui n'est pas forcément le nôtre. Il y a une distance entre lui et nous. Et Jésus ne supporte pas tout et n'importe quoi. Il me semble que notre texte ce matin n'encourage pas une relation fusionnelle entre nous et Jésus, mais une juste proximité, une juste intimité ou une juste distance. Prenez le terme qui vous convient le mieux. Être un chrétien mûr dans la foi, ce n'est pas être collé à Jésus à tout bout de champ. Un petit exemple pour illustrer ce que je veux dire et qui concerne même nos cultes. Qu'est-ce que nous disons à Jésus quand nous chantons, par exemple, « Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. » On connaît ce chant. Un beau chant qui exprime l'amour, la reconnaissance par rapport à l'œuvre de Jésus comme Sauveur. Jean ne précise pas d'ailleurs sauver de quoi. Mais on remercie Jésus de nous avoir sauvés. Et puis le chant continue ainsi. « Je suis heureux ou heureuse, tu m'as donné ton nom. » Écoutez bien. « Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. » Il me semble que dans cette phrase, on glisse vers la mentalité des foules de notre texte, qui veulent coller Jésus pour obtenir le réconfort qu'elles attendent de sa part. Ce chant est beau, mais cette phrase me pose problème. « Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. » Il me semble qu'à cette phrase, notre texte de ce matin répond, si l'on fait prendre la parole à Jésus, « Eh bien moi, je ne veux pas. » Et je prends le large. Comprenez bien ce que je veux dire, hein ? On peut trouver du réconfort dans l'idée de faire un câlin à Jésus. C'est pas ça qui me choque. Ce que je trouve qui n'est pas juste, c'est de ne pas vouloir être ailleurs que collé à Jésus. Parce que notre texte, me semble-t-il, est clair. Ce n'est pas parce qu'on est collé à Jésus qu'on est son disciple. Dans notre texte de Marc 3, c'est même plutôt le contraire. Être disciple, ce n'est pas non plus être à plat ventre devant Jésus et ramper devant Jésus. Ça, c'est la place des mauvais esprits. Être disciple, c'est quoi alors? Et je termine par là. Être disciple, c'est premièrement être appelé par Jésus à le suivre. Deuxièmement, c'est être avec Jésus et non être collé en lui, à lui en permanence. Et troisièmement, être disciple, c'est remplir une mission particulière. Et donc, je vous donne la phrase qui résume un petit peu cette prédication. Appelé par Jésus pour être avec lui et accomplir une mission. Appelé par Jésus pour être avec lui et accomplir une mission. La mission des douze était la même que celle de Jésus, prêcher et chasser des démons, c'est-à-dire les faire taire quand ils se révèlent. Notre mission à nous, chrétiens, en 2017, n'est pas tout à fait la même que celle de ces douze bonhommes que Jésus a appelés apôtres. Nous sommes aussi envoyés en mission d'une certaine manière, mais nous ne sommes pas des apôtres de Jésus au sens où l'étaient ces douze bonhommes. Face au calendrier de ce monde, de notre monde, avec ses attentes, les foules, face au calendrier de ce monde, avec son savoir mal utilisé, celui des démons, ils disent des choses justes sur Jésus, et c'est mal utilisé. Face à ce monde, Jésus met en œuvre son salut au travers d'une équipe de 12 gars qu'il va former pendant 3 ans. Et la suite du récit que nous allons lire et étudier ensemble montre cette alternance entre des temps en équipe avec Jésus et des temps de mission dans le monde. Être avec Jésus, être en mission dans le monde. Avec Jésus et en mission dans le monde. Ça marche ensemble. Et ça nous paraît fou, démesuré. Une poignée d'hommes face à toutes les souffrances du monde. Mais ces 12-là sont en formation avec Jésus. Et nous qui croyons aujourd'hui, qui sommes là ce matin, nous sommes le fruit de l'œuvre missionnaire de ces 12-là, de ces 12 apôtres que Jésus a formés. Et ce sont leurs écrits que je vous prêche ce matin, enfin j'espère. Marc, très probablement le secrétaire de l'apôtre Pierre, c'est l'évangile selon Pierre que nous entendons ce matin. Pierre, l'apôtre, le porte-parole autorisé du Seigneur Jésus. Alors, nous aussi nous sommes appelés par le Christ. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous venons ce matin. C'est parce que nous avons été appelés par le Christ. Nous aussi, nous sommes appelés par le Christ et nous le sommes à travers la parole de ses apôtres pour, d'une certaine manière, nous aussi, être avec lui et accomplir la mission qu'il nous a confiée aujourd'hui encore pour parler de lui autour de nous et faire taire les puissances qui s'opposent à la proclamation de l'Évangile. Alors, pour ce qui est de suivre Jésus comme ses disciples cette semaine, soyons des montagnards, pas des baigneurs. C'est pas une pub pour aller à la montagne cet été plutôt qu'à la plage. Vous l'avez bien compris. Marchons avec Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que c'est toi qui nous appelles Et comme pour ces 12 apôtres, tu nous appelles, à être avec toi en nous nourrissant de leurs paroles. Parce qu'ils ont parlé de ta part. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons nous nourrir de cette parole de Marc, de Pierre, pour être avec toi dans une relation plus juste. Si nous sommes trop proches, trop collés à toi, Seigneur, je te prie que tu nous aides à mettre un peu de distance pour pouvoir grandir dans la foi et ne pas rester comme des bébés collés à leur maman. Et si nous sommes trop à distance, Seigneur, peut-être un peu à l'image de ces gens tourmentés par des esprits mauvais qui n'avaient aucun contact avec toi. Seigneur, je te prie que tu nous appelles et que tu changes nos vies pour que nous puissions découvrir la joie d'être tes disciples, de marcher avec toi, dès maintenant et pour toujours. Amen.